Non, peut-être que votre élève a compris que, en fait, l'envoi au tableau d'un élève, c'est souvent celui-là qui apprend, et peut-être moins les autres qui sont autour. Et voilà. C'est-à-dire que c'est tout. Et pour ça, c'est plus collectif l'anglais, parce que personne n'y va. Donc ça s'adresse à tout le monde. Alors que celui qui est au tableau, mais c'est pourri.
Je pense que quand je l'interroge et qu'il dit « Ah oui, en mathématiques, j'y vais, etc. » Et là, qu'il s'aperçoit qu'en fait, il n'y va pas en anglais, il y a quelque chose où il s'aperçoit de quelque chose, là. Mais en même temps, mon idée, c'est qu'il y va au tableau, mais il ne se déplace pas. Et précisément, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pense toujours l'espace en termes de déplacement. Jean-François Marcel a écrit sur le tableau et effectivement il analyse la classe ou l'espace de la classe en termes de déplacement. Donc il regarde où sont les tables, où est le maître, où est-ce qu'il se déplace, etc. Et quelquefois en formation, quand on travaille sur l'espace de la classe, on travaille comme ça. Or, non, il n'y a pas besoin de se déplacer. Hein. Vous voyez, et la question de où on est, finalement, c'est pas forcément physiquement. Et le tableau, il peut servir à ça, justement. À être, alors même qu'on n'y est pas. Donc, c'est assez intéressant parce que très souvent, on peut être dans des. Vous voyez, on va penser, il faut envoyer effectivement l'élève au tableau parce qu'on va être dans des espèces de déterminismes spatiaux. Hein. On va penser que s'il est là, alors il va se produire quelque chose. Or, ce qui est assez intéressant ici, je trouve, c'est que. Je pense que vraiment, quand cet élève s'aperçoit, parce que dans l'entretien, il s'aperçoit qu'il n'y va pas finalement au tableau en anglais. Alors même que sans doute il a l'impression d'y être. C'est justement cette idée, vous voyez, d'y être sans s'être déplacé. Mais parce que il y a un enseignant qui. on y est parce qu'on le lit, parce qu'on est. Enfin, notre parole est écrite alors même qu'on n'inscrit pas. Mais c'est vrai ce que vous dites. Hein. Les enseignants envoient les élèves au tableau aussi parce qu'ils savent bien que peut-être, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe. Sauf quand les élèves sont terrorisés et qu'ils sont tout occupés par autre chose que d'apprendre, là.
Mais c'est l'élève qui est exposé dans ce cas-là. Quand celui qui est envoyé au tableau, c'est lui qui est exposé.
Oui.
Plusieurs sens du terme.
Oui. Alors, il y a, bien sûr, hein, sur la question du tableau, il y a le fameux Blanchard-Laville, hein, Mélanie en mathématiques. Passe au tableau. Et effectivement, Mélanie qui passe au tableau, on peut croiser les regards et puis se dire que. Oui, elle est exposée. Et elle n'est pas exposée au savoir, mais autre chose.
Alors, juste une petite chose. Là, le tableau, on l'a vraiment regardé du point de vue de l'institution scolaire, c'est-à-dire dans la classe, finalement, le tableau. Qu'est-ce qu'en effet, sous la guidance de l'enseignant, ce qui n'est pas inintéressant aussi, c'est de voir quand des élèves, dans le cadre de l'extrascolaire ou du périscolaire, se retrouvent dans des salles où il y a un tableau, et de voir comment est-ce qu'ils se réapproprient ce lieu du tableau. Et donc très, très souvent, il rejoue le rôle du petit maître. Et à travers ça, on voit bien effectivement quelle représentation ils ont de l'usage du tableau.
Le tableau en tant que lieu de pouvoir et lieu de savoir. Et quelquefois, c'est pas la même chose.
Est-ce que l'un des intérêts du tableau, ce n'est pas lorsqu'il s'efface ?
C'est-à-dire, vous pensez quand il est effacé ou bien quand on ne l'utilise pas ? Qu'est-ce que vous entendez par quand il s'efface, quand on ne le voit pas ? Vous voulez développer ? Parce que le tableau, effectivement, c'est un espace qu'on peut effacer. Mais sauf les tableaux blancs interactifs où on peut garder des traces. Et c'est pas inintéressant aussi, hein, cette faculté de garder ce qui s'est fait au tableau. Mais sinon, ça peut être un pur espace où il n'y a pas de traces. Donc on peut être dans l'essai. Et en même temps, il y a des traces. Enfin, on peut garder des traces. Hein.
Puisqu'on parlait de conscience tout à l'heure, l'effacement d'un tableau doit servir au désétayage du tableau. Il y a une absence qui va se passer. Et habituer peut-être les élèves à se priver du présent est le premier moment de la conscience.
Je ne vous suivrai pas là-dessus.
C'est-à-dire,
parce que,
on voit des professeurs qui disent à leurs élèves, attention, le tableau va être effacé. On peut effacer sans rien dire. On peut demander aux élèves d'effacer le tableau, ce qui leur semble être, ce qui peut momentanément disparaître, tout en gardant. On voit aussi des professeurs qui, de temps en temps, utilisent pour les élèves des feutres indélébiles.
Et pas pour eux. Mais vous voyez, parce que le tableau, c'est C'est à mettre en lien avec plein d'autres choses. Enfin, il y a eu les usages des rétroprojecteurs. Il y a quelquefois des classes où il y a à la fois le tableau, il y a plusieurs tableaux. Hein. Et là, on a pu en voir des tableaux aussi sur les côtés, plusieurs tableaux. Il y a la question effectivement de ce qu'on montre, ce qu'on cache. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à voir, ce qui fait système avec des affiches ou des pancartes, ou pas d'affiches, pas de pancartes, etc. Et puis le lien tableau-cahier, parce que le tableau, il peut être effacé, mais on peut garder des choses aussi parce qu'on a finalement le tableau copié ou une partie du tableau copié. Il y a vraiment des façons différentes de copier ce qu'il y a au tableau. Donc là, il y a un atelier demain, un atelier d'autoconfrontation qui proposera de travailler effectivement sur ces questions. Mais le tableau, il montre la nécessité. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi les différences entre premier degré, où il y a moins d'utilisation de tableau. Hein. Plus on monte dans le second degré, plus il y a d'utilisation de tableau. Et avec le côté, vous voyez, de l'apprentissage qui est quand même lié. Là, quand on utilise le tableau, on montre ce que fait ou ce que produit, effectivement, la possibilité de matérialiser la pensée sur la pensée. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire.
En cas de décrochage, réconciliation scolaire, sur le réseau de réussite scolaire de Bellegarde-sur-Valserine, à la frontière donc genevoise, des jeunes collégiens, voire des élèves de cycle 3, sont pris une dizaine de séances par un professeur supplémentaire pour préparer leur enseignement à d'autres élèves. Et ces jeunes élèves deviennent jeunes enseignants momentanément. Mmh. Et il serait intéressant que vous puissiez suivre quelles sont les procédures d'inscription au tableau que reproduisent ces élèves jeunes enseignants dans la recomposition, on va dire, de leur propre enseignement.
Oui. Ah oui.
Si vous voulez, ça peut être
intéressant. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant ça. Oui. Surtout que ce sont des pratiques alors qu'on peut trouver ailleurs, hein, parce qu'il y a des pratiques qu'on appelle ou de tutorat ou de mentorat qui peuvent être mises en place, en particulier en collège, en lycée, et puis à l'université aussi, où le décrochage existe et où la difficulté étudiante existe.
Vous placiez le tableau finalement comme un objet qui rendait l'interactivité possible. Pendant une époque, on avait les cours dialogués où le professeur posait des questions, les élèves répondaient, etc. Et c'était quasiment dans toutes les matières la même chose. On avait pratiquement la même... tous les professeurs avaient quasiment la même pratique pédagogique de ce cours dialogué qui finalement rendait les cours extrêmement lassants, extrêmement répétitifs, mais quelles que soient les matières finalement, puisqu'on était toujours dans ce jeu de questions-réponses en maths, en histoire-géo, en anglais, en français. Et puis vous placez le diaporama, enfin les PowerPoint, dans une situation finalement où on impose quelque chose à l'élève. Alors j'ai envie de dire, oui, c'est vrai que ça a un côté imposé à un élève, ce qu'on a construit en amont sans les élèves chez nous le soir, etc. Mais professeur d'histoire-géographie, par exemple, moi, le diaporama, je l'utilise aussi dans les derniers programmes en soutien à une narration, puisqu'on replace l'histoire comme... l'histoire avec un grand H, on le replace comme histoire avec un petit H, où la narration a sa place, et le diaporama me sert, moi, de narration. Et finalement, quand j'interrogeais mes élèves, comment vous trouvez cette façon de faire avec un diaporama ? Ben, madame, on préfère, ça change des cours. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites c'est imposer quelque chose à l'élève. Je pense que le diaporama, à un moment donné, ça leur offre une autre façon de faire cours.
Oui, mais en même temps, il y a des pratiques de diaporama qui sont intéressantes. Souvent, c'est ce qu'on appelle l'écrit projeté, qui s'oppose à l'inscription. Or, il se trouve qu'il y a des... Alors, vous faites peut-être comme ça, hein, parce qu'il y a des pratiques qui sont intéressantes. Moi, j'arrive pas à faire ça. Qui consistent à la fois à projeter et en même temps, par exemple, à inscrire. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des salles où il n'y a pas d'écran, mais finalement, c'est pas du tout gênant, c'est même plutôt mieux parce qu'on peut écrire sur le tableau blanc, effacer, et donc avec une dimension du coup ou de commentaires ou bien de sollicitations ou de soulignements et de s'arrêter. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir la façon dont une pratique en enrichit une autre là. Mais sinon, un diaporama comme ça, c'est quand même Alors c'est vrai que ça peut varier, les élèves peuvent penser que c'est bien parce que ça varie, mais par exemple sur le cours dialogué, je ne suis pas sûre que ce soit parce que tout le monde fait du cours dialogué, c'est parce que le cours dialogué en même temps, il est difficile, il laisse peu de temps, enfin, c'est vraiment un cours en général où on n'a pas de temps, c'est le cours mitraillette, c'est les questions mitraillettes, c'est ça qui est quand même, c'est pas un cours, vous voyez, où il y a de l'élaboration tellement, et peut-être que c'est plus ça que le fait d'ailleurs que ce soit une pratique commune.
Oui.
Oui, et c'est vrai que dans cette discipline, il y a aussi des pratiques de diaporama qui n'y a pas.
Non, mais je pense ailleurs. Que l'élève confronté aujourd'hui à 4 heures de cours le matin, 4 heures, voire 5 heures de cours l'après-midi en lycée, parce que c'est ça, c'est 8 heures midi, 13 heures, 17, 18 heures en lycée, sur une même pratique pédagogique, je défie n'importe quel adulte de ne pas décrocher au bout d'une heure et demie, deux heures, même en ayant des aptitudes à l'échange. Voilà, il y a un moment, je pense qu'on a besoin de solliciter d'autres façons de penser et de réfléchir. C'est une nécessité.
Oui, mais là, vous montrez le fait que ça apporte quelque chose, hein, plutôt que de ne pas avoir ces aides visuelles, parce que c'est quand même de l'aide visuelle d'avoir un diaporama, par rapport à l'absence du diaporama. Mais le diaporama, il a quand même ses limites, hein, de non-interaction. Ou bien vous arrivez à faire des diaporamas très, très... Enfin, précisément, parmi les professeurs d'histoire-géographie, c'est peut-être pas un hasard si les utilisateurs de Prezi, actuellement, c'est quand même avant tout des professeurs d'histoire-géographie. Parce que c'est plus... Ça permet de plus bouger, enfin de... Et c'est un support, quand même, qui soutient aussi l'attention qu'il présente. C'est la valeur, effectivement, ostensible. Hein. Ça montre et ça soutient.
Moi, je voulais parler aussi de ce que tu es venu voir éventuellement dans mon cours. Lorsque je fais la phrase du jour avec des sixièmes, où le tableau devient le lieu des élèves, puisque c'est eux qui viennent écrire au tableau la phrase, où on étudie, enfin où ils mettent leur orthographe à eux, où je n'interviens pas du tout. Et après, je suis simplement le scripteur des autres propositions. Donc, je n'interviens pas du tout non plus. Et en fait, je suis juste là pour noter les mots avec leur orthographe, et chaque élève propose une solution, une stratégie orthographique pour éliminer les solutions qui sont pas bonnes et finalement réécrire la phrase correctement. Donc dans cette heure-là, finalement, moi, je n'écris pas au tableau, même si j'écris juste la réponse à la fin qu'ils me proposent, ou je barre, je fais que reproduire ce qu'ils me disent. Et j'ai remarqué qu'en effet, ils aimaient ça. Prendre le tableau pour eux, en fait, c'est leur tableau, il n'y a pas une couleur spécifique aussi à la faute ou pas, c'est la couleur bleue ou verte d'ailleurs, pas forcément justement rouge, et c'est un moment où ils aiment bien, parce que c'est leur tableau à eux, et du coup, même sur un exercice d'orthographe, bah, ils adorent aller au tableau.
Oui, donc, mais alors ta pratique, en plus, elle note les différentes propositions.
Oui, tout à fait.
Qui vont rester au tableau.
Voilà, les erreurs sont au tableau, mais on les barre, éventuellement discuter, analyser, voilà. Et on les laisse et on les écrit sur le cahier même et on les barre.
Oui. Et il faut recopier sur le cahier la totalité.
Voilà, la phrase du jour, on me demande ce que c'est. Donc, il y a plusieurs façons de la faire, en fait. Moi, je me la suis appropriée parce que, voilà, c'est une phrase que l'enseignant peut choisir de faire écrire à ses élèves, inventer, ou prendre dans un corpus, c'est comme on veut, et sur un point précis de grammaire orthographique ou d'orthographe lexicale ou d'accord, enfin ce qu'on veut. Et à partir de là, on propose cette phrase aux élèves. Et on cible des points, en fait. Donc, par exemple, en sixième, les accords sujet-verbe ou les accords avec les adjectifs, etc. Et on déroule, on explique. Mais c'est eux, finalement, qui font la leçon. Moi, je suis juste là pour voir avec eux comment ça se passe. Il y a une discussion sur les stratégies orthographiques et comment ça se met en place. Et ils en tirent la leçon eux-mêmes qu'on présente après cet exercice directement en pratique.
Alors, je crois savoir que Hélène exposera des pratiques différentes de phrases du jour vendredi en début d'après-midi.
Oui.
Parce que c'est une pratique effectivement qui se diffuse sur l'éclair, mais qui n'est pas forcément. Enfin, chacun s'approprie, hein, forcément, les choses.
Oui.
Et sur ces questions de qu'est-ce qu'on va demander aux élèves effectivement de recopier, il y a des variantes. Hein. Est-ce qu'on va demander de recopier la phrase correcte ou est-ce qu'on va demander de recopier la totalité et les raisons pour lesquelles on va éliminer telle ou telle proposition, et avec une formalisation quand même justement des règles qui est très forte. Le tableau là sert à travailler les règles et à les discuter ou à les exposer, parce que quelquefois il faut simplement les apprendre.